le grand dialogue
sigi kan fo ba
e de woni wa makaran
le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne beri
halud mawdi
chenne beri sigi kan fo ba
le grand dialogue.
Samedi dernier, peu les Bambara se sont violemment affrontés dans la région de Ségou à Kemasina, faisant de nombreux morts et blessés. L'installation des autorités intérimaires est prévue pour cette semaine dans les régions du Nord. La société civile de Gao conteste. La journée mondiale de la radio, c'était lundi dernier. Enfin, un vaccin contre le paludisme en expérimentation au Mali. Mesdames et messieurs, voici les thèmes que l'on vous propose pour le rendez-vous hebdomadaire avec les hommes de médias. Nos invités sont Boubacar Paetao de l'Indépendant, Benjamin Sangala de Fraternité Africaine, Mamadou Djadje Sako Sax de RFM, Paul Nguessan du Prétoire. Je suis Ousmane Djadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Philly Dambélé.
Le grand dialogue.
Samedi 11 janvier, au soir, dans le village de Djawaribougou, un groupe d'hommes ouvre le feu sur un commerçant, Siaka Traoré. Cet assassinat perpétré à 7 km de Kemasina ouvre la voie à une escalade de violences intercommunautaires entre Peuls et Bambara, faisant plus de 20 morts. Alors, Paul Nguessan du Prétoire, comment expliquer ce conflit ethnique entre deux communautés qui vivent ensemble depuis des lustres?
Bon, merci bien pour la bonne invitation. Effectivement, il faut comprendre que ces gens d'attaque ne sont pas les premiers entre communautés. Je pense que cette fois-ci, ils sont allés un peu à la dérive. Il a fallu que l'autre camp réagisse. Et malheureusement, nous déplorons quand même ces morts. Ils sont un peu de trop pour la nation. Et je pense qu'au-delà même de l'attaque communautaire, il faudra vraiment essayer de se poser cette question. La cohabitation aujourd'hui, suite à la crise que le Mali a vécue depuis 2012.
Une cohabitation qui existe depuis des siècles.
Bien sûr, mais justement qui existe depuis la communauté, mais malheureusement il faut qu'on se dise la vérité, depuis 2012 le tissu social s'est fissuré. Et donc aujourd'hui il y a une méfiance en ces communautés-là, car d'autres accuseront l'autre d'être soit membre des islamistes dans le temps qui ont appliqué la charia, d'autres diront que non. Donc ça devient que soit comme un moment où les gens sont en train de partir au revanchard. Il faudra vraiment que les autorités puissent vraiment essayer d'appeler les gens à la raison, essayer d'expliquer un peu ce qui s'est passé, que ce n'est pas la faute de tel ou tel. Il faudra quand même essayer de mettre la confiance pour que ce vivre ensemble là puisse se renaître et pour que la cohésion vraiment puisse être retrouvée. Sinon, on aura toujours ces gens d'affrontement parce qu'il y a une méfiance aujourd'hui, une crise de méfiance entre les différentes communautés.
Boubacar Paetao, vous êtes un peu de la région d'ailleurs, le centre du pays qui commence avec une certaine instabilité, les communautés qui s'affrontent. Est-ce que vous le comprenez, ça?
Je vais d'abord inviter une chose, remercier l'ensemble du personnel de Studio Tamani. Mais ce que moi je déplore, c'est que après la grave crise multidimensionnelle que notre pays a connue en 2012, on tend vers la banalisation de la mort. C'est-à-dire que le fait de tuer son prochain, c'est devenu banal. C'est ce que je déplore dans tout ça. Sinon, c'est des communautés qui vivent ensemble pendant des siècles. Et je crois qu'il y a tout un mécanisme de gestion des conflits. Mais au-delà de tout ça, c'est-à-dire que depuis 2012, on a assisté, les gens, il y a ce sentiment qui s'installe, c'est-à-dire que la banalisation de la mort, c'est-à-dire que pour un oui ou pour un non, on est prêt à ôter la vie à son prochain. C'est ce que je déplore.
Mais justement, à la base de ce conflit communautaire, est-ce que justement l'ombre de Amadou Koufa et du Front de Libération du Massina ne plane pas un peu sur l'ethnie peul dans le sens
Je ne pense pas trop, mais vous allez certainement m'excuser, les peuls, bon, de nature sont violents, c'est-à-dire qu'on connaît tout ça, mais il y a des mécanismes.
Je ne suis pas totalement d'accord.
Oui, non, je sais, non, je suis non, peul, je, parce que C'est-à-dire que pour des questions de pâturage, c'est-à-dire que les peules n'hésitent pas à attaquer, c'est-à-dire qu'à agresser. Bon, moi, je pense que, c'est-à-dire que nous, on a toujours vécu comme cela. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes, il y a tellement de mécanismes de gestion des conflits que maintenant, même après Mordom, je crois que, c'est-à-dire que ces communautés étaient capables, c'est-à-dire que de s'asseoir et de discuter. Maintenant, quand ça atteint cette proportion, ça devient inquiétant. C'est comme je le dis, c'est-à-dire que la vie humaine n'a plus d'importance. Bon, avant, on disait que bon, il y a ceci, il y a cela, la vie, c'est-à-dire que l'être humain est sacré, etc., etc. Je crois qu'on est en train de perdre ces valeurs-là, et c'est ce qui est scandaleux, moi, à mon sens.
Benjamin Sangala de Fraternité Africaine, vous êtes également de la région. Quelle est votre lecture donc de cette situation? Il y a toujours eu des conflits communautaires hein, qui ont opposé les différentes ethnies, Dogon, Peul, Bozo, etc. Pourquoi est-ce que maintenant, quand il y a des conflits entre les différentes communautés, on a autant de victimes?
Bon, en fait, comme l'autre l'a dit, c'est toujours un peu dans... c'est la continuité un peu de la crise de 2012. Nous regrettons tous. Et maintenant, les choses sont devenues tellement banales que, bon, en fait, il n'y a plus de concessions. Et tel que, vous savez que les Peuls, les Dogons, Peuls, éleveurs Dogons, agriculteurs et d'autres ethnies aussi, agriculteurs, vivent dans le même champ d'intérêt et tout. Maintenant, depuis 2012, on suppose, comme vous l'avez dit, que les Peuls appartiendraient peut-être au clan Amadou Koufa, chose que
le mouvement de libération, Massina, mais on a connu aussi des Dogons qui en font partie, Bambara qui en font partie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a une espèce de stigmatisation de certaines ethnies?
Bon, c'est ce que peut-être qu'il faut peut-être éviter. Maintenant, on peut peut-être appeler en tout cas à un certain niveau que les gens s'impliquent davantage pour qu'il n'y ait pas vraiment ce genre de conflit. Et des choses qui entrent vraiment devenues graves et c'est assez récurrent également aussi. C'est des choses qui ont toujours existé, comme il y a eu des mécanismes, mais maintenant ça devient tellement banal, tellement récurrent, toujours des morts d'hommes et que le gouvernement à chaque fois réagit un peu tardivement, peut-être le médecin après la mort. Bon, est-ce qu'on va toujours continuer comme ça?
Merci Amadou Djadje Sako de Mamadou Djadje Sako, vous êtes le patron de la radio FM. Moi, je ne comprends pas le fait que l'administration ne soit toujours pas déployée dans le centre du pays, hein, qu'il n'y ait pas une forte présence militaire qui puisse empêcher ce genre de choses d'arriver.
Parce qu'elle n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Et moi, j'aurais souhaité d'ailleurs même que le fait soit réqualifié au lieu de dire que c'est un conflit entre Peul et Bambara. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. On a tellement instrumentalisé les choses au Mali qu'on veut nous faire avaler encore cette quinine encore, dire que c'est un affrontement entre Peul et Bambara qu'il faut éviter. Ça n'a jamais existé, ça ne va jamais exister. Vous m'appelez Sako. Vous savez si je suis Peul ou si je suis Bambara? Mais on veut nous faire croire encore que ce qui s'est passé le samedi passé, c'est entre Peul et Bambara. Non.
Justement, des liens de mariage
voilà,
qui lient ces deux communautés,
de
ce qu'ils
veulent que
des communautés
soit,
qui ont non. de forts liens historiques.
Voilà,
comment est-ce qu'on en arrive
c'est
là?
C'est là qu'ils veulent que ça soit entre Peul et Bambara. C'est ce qu'ils disent que c'est Peul entre Peul et Bambara. Vous-même, vous venez de décrire les faits. C'est un simple boutiquier.
Sax, quelle est la responsabilité du gouvernement?
La responsabilité du gouvernement, parce que le gouvernement, il est absent sur le reste du territoire national. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. L'administration malienne ne doit pas laisser sa défense ou bien ne doit pas négocier la défense, la sécurité du territoire. C'est pas possible. Et c'est là qu'ils prétendent nous sécuriser, vont faire de telles utilisations. Si moi je vous rappelle tout de suite, si on dit Amadou Touré a tué Ousmane Diarra, ça veut dire que c'est Ousmane Touré qui a tué Diarra, mais on ne va pas dire si vous allez très loin, vous dites que Touré Peul a tué Diarra Bambara, c'est autre chose.
Donc vous pensez qu'il y a déjà une mauvaise lecture hein,
mauvaise lecture
parfois et peut-être de nos collègues de la presse également
hein. Il n'est pas une, non certaines presses font le relais de cet impérialisme, font le relais de ces hommes qui ont la destinée de pays qui ne sont pas encouragés. Ça il faut le dire, il faut qu'on se dise ça entre nous. Si vous faites passer ce qu'ils veulent et qu'ils vous fassent passer là, c'est ce que vous allez faire. Moi je ne suis pas d'accord, c'est pas entre Peul et Bambara. Une fois de plus, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas qu'on aille faire passer ça dans la tête des Maliens. Par exemple, ça s'est passé à Kemassina. Si vous dites qu'entre Peul et Bambara, c'est eux qui vivent là-bas, c'est des Maliens qui vivent dans une contrée, vous allez créer un problème qui n'a jamais existé entre ce Peul et ce Bambara de Kaï. Or, ce n'est pas une question du peuple Bambara. Donc, il faut que nous requalifions les faits. Et moi, je suis vraiment désolé d'entendre par-ci, par-là, que c'est une affaire entre peuple et Bambara. Non, non, je ne suis pas du tout d'accord.
Merci, Amadou Diadji Sakho. Paul Nguessan du Prétoire, on a vu que le centre du pays devient de plus en plus violent. On a vu l'assassinat de deux maires il n'y a pas longtemps. On a également vu, rien qu'hier, qu'un garde a été enlevé à la recherche du juge d'instruction de la localité de Douanzan. Son garde a été enlevé. Qu'est-ce qui explique, en fait, toutes ces violences récurrentes dans le centre aujourd'hui? Le centre qui était quand même relativement calme comparé au nord du pays. On a l'impression que le nord va mieux que le centre aujourd'hui.
Mais je pense que comme vient de dire ça, c'est quand l'autorité ne s'assume pas, la sécurité, quand dans le centre du pays, vous avez l'administration est quasi absente. Les forces de défense et de sécurité sont là-bas à contre-goutte. Mais c'est difficile, c'est pas surprenant qu'on puisse assister à cette scène de barbarie humaine. Parce qu'il faudra que l'État s'assume. Pourquoi est-ce que l'État, au lieu de déployer les moyens comme il se faut, Dieu merci, il y a eu l'opération Serval, même s'il y a eu des fous, des couacs, ils ont pu libérer le territoire d'une manière ou d'une autre. Aux autorités maliennes, de pouvoir maintenant reconquérir ces territoires-là, pour pouvoir sécuriser, donner l'envie à ces populations-là de se reconnaître, de se sentir en sécurité. Mais jusqu'à là où nous parlons, les gens vivent encore avec la peur. Et c'est puisque la nature est du vide. Les groupes armés profitent de ça pour faire du centre un Far West. Donc c'est pas étonnant, il faut que l'État, l'autorité centrale s'assume, c'est tout.
Boubacar Paetao, à qui imputer justement ces actes de violence? Est-ce que ce sont des extrémistes religieux ou tout simplement le banditisme résiduel qui prend de l'ampleur dans le pays?
Bon, la responsabilité, je crois que elle incombe à chacun d'entre nous, nous en tant que presse, c'est-à-dire que parce que la façon dont on relaie les informations, c'est extrêmement important, parce que vous savez que dans un pays en crise, il y a plusieurs lignes éditoriales, c'est-à-dire que il faut que aujourd'hui que nous travaillons, nous journalistes maliens, à apaiser la tension. C'est-à-dire que pour rejoindre mon grand frère, il faut éviter de mettre cette dose là-dedans. C'est-à-dire que conflit Peul-Bambara. Parce que Peul-Bambara, peut-être dans le Massina, mais peut-être à Kulikoro, Peul-Bambara, ils vont se regarder en chien et faïence. C'est comme ça. C'est-à-dire que, bon, ça c'est la responsabilité de la presse. Maintenant, la responsabilité des collectivités. C'est-à-dire que des habitants, des populations eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions la différence entre la religion. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, on a tout le temps cohabité ensemble. C'est-à-dire que l'esprit de vivre ensemble, le pardon, etc. etc. Je crois que ces valeurs-là...
Justement, ce sont des valeurs profondément maliennes.
Oui, maintenant, ces valeurs, je crois qu'on doit continuer. On doit continuer à vraiment cultiver ces valeurs-là. C'est extrêmement important. Maintenant, il y a également le rôle des politiques. Je me rappelle en 2014, juste après la libération, j'ai effectué une mission avec un homme politique à Mopti. De retour, parce que moi je suis de la zone, de retour je lui ai dit, si vous ne faites pas attention, cette histoire de terrorisme, d'islamisme, si jamais ça pénètre cette zone-là, c'est fini. Parce que moi je suis de là-bas, moi c'est que j'ai certains de mes parents, quand ils ne prient même pas, ils ne mangent pas avec toi. Parce qu'ils supposent que quelqu'un qui ne prie pas est un chien. Ça, c'est déjà leur philosophie depuis. Maintenant, imaginez quelqu'un qui vient, il dit que voilà, moi, je suis en train de lutter pour une cause, tous ceux qui ne prient pas, il faut les... Mais vous voyez que vite fait, tu n'as pas besoin de donner de l'argent à ce dernier pour qu'il se tue.
Et là, on ne parle pas de Peul-Bambara.
Voilà, donc juste c'est pour vous dire que c'est-à-dire que cette zone, je crois que chacun a sa part de responsabilité. C'est-à-dire que les politiques n'ont pas joué, parce que, comme a dit Paul Guéchard, la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, ces communautés, une fois qu'ils se sentent lésés, maintenant, ils vont essayer maintenant de se défendre. Ils vont essayer de se défendre tant bien que mal. Maintenant, l'autre paire de manches, c'est également, c'est-à-dire que la libre circulation, c'est-à-dire que des armes. Parce que vous savez qu'en 2012, c'est-à-dire qu'après le coup d'État, on a vandalisé des magasins d'armes. Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé ces armes-là. Les armes se vendent comme de l'arachide.
Donc il y a une prolifération des armes. Également.
Voilà, ça c'est extrêmement dangereux. Parce que si tu te sens lésé souvent quand tu n'as pas de moyens de défense, tu es obligé d'accepter comme tel. Mais si jamais tu as une arme chez toi, mais tu vas vouloir te défendre. Voici un peu. Donc la responsabilité, elle est un peu partagée. Donc je crois que chacun à son niveau doit s'assumer.
Voilà. Merci Boubacar Paetao. Messieurs, je vous propose de prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons continuer cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de rester connecté au Studio Tamani. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le Forum de la Presse, notre rendez-vous hebdomadaire avec les hommes de médias. Nous allons passer à présent à un autre thème. On a vu l'annonce de l'installation des autorités intérimaires à Gao, qui a suscité de vives réactions au sein de la société civile, notamment la jeunesse. Selon elle, il est hors de question d'accepter les autorités intérimaires comme le prévoit l'accord à la place de celles démocratiquement élues. Benjamin Sangala de Fraternité Africaine. Gao refuse l'installation des autorités intérimaires. Est-ce que ce n'est pas revenir en arrière, justement, dans le processus de paix?
Je crois qu'il faut, il faut s'y attendre, parce que cette histoire, déjà, à mon avis, est-ce que les populations, c'est-à-dire que ceux qui semblent représenter les populations ici, représentent valablement la population, est-ce qu'à la base, on associe certains mouvements à les faire, en tout cas à choisir entre ceux qui devaient être les représentants des autorités intérimaires? Il y a tout ça. Et Gao également, c'est une autre histoire.
Mais l'accord est explicite là-dessus. Hein?
L'accord est explicite, d'accord. Mais est-ce que Gao, je crois qu'il y a eu, si vous choisissez des gens qui ont par le passé de mauvais souvenirs, où ils ont eu des petits couacs avec les populations, si vous voulez choisir encore revenir diriger cette zone, ça va faire un certain nombre de problèmes. Je crois que la population est aussi là à cette histoire-là. Donc, bon, pour le moment, je crois que pour aller vers la paix, il faut vraiment des concessions et accepter. Mais s'il faut chaque fois toujours revenir pour des petits couacs, revenir et puis, bon, refuser, est-ce qu'on va aller vers la finalisation de cet accord? Ou est-ce qu'on va aboutir à la paix? C'est la question que je me pose. Alors, où allons-nous alors?
Mamadou Diadji Sakho de RFM. L'application de l'accord a accusé beaucoup de retard. Gao est connu aussi pour être le symbole de la résistance malienne. Gao qui s'est soulevé, notamment la jeunesse de Gao s'est soulevée même sous le gîte des islamistes. Aujourd'hui, Gao refuse l'installation des autorités intérimaires. Est-ce que vous pensez qu'il faut juste laisser tomber cette histoire d'autorité intérimaire dans la commune urbaine de Gao, par exemple, étant donné qu'il y a des autorités légitimes déjà qui existent? Parce Gao, que les élections ont eu lieu à Gao.
Gao a tout à fait raison. Parce qu'il ne faut pas mettre quand même l'accord au-dessus de notre constitution. Cette affaire des autorités intérimaires, là, s'il y a eu au moins, je peux dire, toute la procédure de lutte démocratique a été menée par notre opposition, c'est toujours par rapport à ces autorités intérimaires. Ils sont même allés jusqu'à la Cour constitutionnelle. Alors, qu'est-ce que la loi même dit? Il dit d'installer les autorités intérimaires là où il n'y a pas pu avoir des élections. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des élections à Gao où, comment dirais-je, pour ne pas dire le maire Lesander, a perdu. Non, au moins, quand même, à Gao, il y a eu des élections libres et transparentes. Il y a eu des élections à Tombouctou. Or, qu'est-ce que la loi nous dit? Pourquoi dans le pays on veut mettre cet accord-là au-dessus de la constitution malienne? Ils ont vérifié la constitutionnalité de la loi sur les autorités intérimaires. Ça a été validé par la Cour constitutionnelle. Mais cette loi, elle dit, c'est là où il n'y a pas pu avoir des élections. Il y a eu des élections à Gao. Pourquoi alors imposer encore, comme vous-même vous le dites, des autorités par rapport à des gens qui ont été démocratiquement élus? Gao a raison. Et il faut vouloir soutenir encore Gao pour qu'elle ne soit pas encore martyr d'autres autorités intérimaires. Gao ne doit plus continuer à prendre tous les fardeaux de cet accord-là, qui est même aujourd'hui caduque, comme Serge Daniel l'a dit, qui a énervé le président de la République. C'est caduque.
Pour une question de prétoire, l'accord caduque, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'accord de paix qui est signé, dont l'application est en cours, une des mesures phares d'ailleurs, c'est la mise en place d'autorité intérimaire. Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec...
Lui, il n'a fait que répéter un confrère qui est au point de presse, effectivement, c'est ce que Serge Général a dit. Moi, je ne dirais pas que l'accord est caduque, parce que quand on le veut, on ne veut pas, c'est l'instrument du qui nous sert.
Voilà.
Non, parce que quand on le veut, on ne veut pas, c'est l'instrument qui nous sert de sortir des crises et que nous sommes tous d'accord qu'il faut mettre cette feuille de route, appliquer vraiment l'accord dans l'esprit et dans le corps pour qu'on puisse sortir de la crise. Revenons maintenant aux autorités intérimaires. Là, le problème de Gao nous amène à réfléchir. Pourquoi vouloir installer des autorités intérimaires quand même dans une région où, je peux dire, à les trois cas, il y a eu des élections. Où aujourd'hui, il y a des autorités communales qui sont reconnues par le pouvoir central. Aujourd'hui, est-ce qu'en mettant les autorités à Gao, à Tombouctou, ce n'est pas une façon quand même de violer même cette constitution malienne-là? Alors que cette constitution, on a toujours crié haut et fort que le Mali est souverain, laïc, reste tout unifié. Donc on se réfère bien sûr à la constitution. Maintenant, vous voulez mettre les autorités intérimaires. Mais ce que je ne comprends pas, je vois que l'autorité intérimaire même que nous voulons mettre ne concerne que les régions du Nord. Pourtant, la crise a fragmenté tout le Mali. Et aujourd'hui, on est parti discuter en Algérie, on est sorti un accord, accord de paix du Conseil national. Pourquoi vouloir mettre des autorités qui ne s'y est pas, dont la population même, dont pour que l'on veut vraiment des sorties du gouffre, ne se reconnaissent pas à ces autorités-là? C'est ça le problème. Est-ce qu'il faut vraiment...
Vous pensez qu'il faut abandonner l'idée d'autorité intérimaire?
Mais je pense que ne pas abandonner, mais il faut quand même qu'on trouve des personnes de consensus pour que les gens puissent se reconnaître à travers ces autorités-là. Sinon, s'il faut mettre des autorités et que ces autorités n'auront pas de pouvoir sur la population, je pense que c'est une peine perdue.
Justement, Boubacar Paetao de l'Indépendant, le ministre de l'administration territoriale a parlé d'élections le 28 mai prochain, d'élections communales partielles dans les zones, pour les zones où il n'y a pas eu d'élection. Est-ce que ça sert à quoi finalement de mettre ces autorités en place maintenant et les enlever le 28 pour des autorités élues?
Bon, moi je dirais bravo à la jeunesse de Gao, parce que il faut qu'on se dise certaines vérités. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions de l'accord, compte tenu du retard que la mise en œuvre de l'accord a pris. Par exemple, l'installation des autorités intérimaires, moi, à mon sens, c'est une disposition déjà périmée.
C'est donc, faut-il sursoir
C'est-à-dire que c'est entêté à aller aux élections. À partir du moment où le gouvernement s'est entêté à aller aux élections. Parce que les autorités intérimaires, c'était des autorités qu'on mettait en place juste pour, c'est-à-dire que pour créer la confiance entre, c'est-à-dire que les différents, c'est-à-dire que de l'autorité et la population, entre, c'est-à-dire que les populations elles-mêmes. À partir du moment où le gouvernement a fait le forcing, on a organisé les élections, moi je pense que l'installation des autorités intérimaires est périmée. Maintenant, il faut passer à autre chose.
Alors, est-ce que Benjamin Sangala de Fraternité africaine, est-ce qu'il faut attendre la conférence d'ensemble nationale en attendant sursoir à cette histoire d'autorité intérimaire et en débattre entre les différentes composantes du pays?
Je crois que...
Conférence d'ensemble nationale qui est prévue le mois prochain.
Alors, si ça peut sauver quand même l'accord, ça peut sauver la paix. Pourquoi ne pas attendre la conférence nationale? Parce que déjà, l'installation de ces autorités crée tellement de problèmes. À Gao, déjà, il y a des soulèvements. À Tombouctou également aussi. Et également aussi, le choix des hommes est très important. Parce que je crois qu'ils ont un peu choisi dans les différents mouvements, MSA, et Parti gouvernemental, et CMA et tout autre. Mais jusqu'à présent, les populations n'arrivent pas à les accepter en tant que tel, parce qu'elles ne se reconnaissent pas à ce genre-là. Vous voyez. Donc si déjà...
Est-ce que la société civile de Gao, notamment, a été suffisamment impliquée dans le processus de paix?
C'est peut-être ce problème-là. Déjà parce qu'il me semble non. Déjà, la jeunesse de Gao ne se sent pas tellement concernée dans cette histoire. D'autres mouvements également. Donc, ça veut dire que la société de Gao n'a pas été tellement impliquée dans cette histoire.
On a nommé déjà Bamako.
Mamadou Diadje Sakho, on a beaucoup parlé. D'implication justement de cette société civile. Oui. Est-ce que vous pensez que les gens à Gao, le citoyen lambda à Gao, comprend déjà le processus de paix en cours et l'accord signé, les dispositions de l'accord, est-ce qu'elles sont comprises?
Non, pas du tout, on ne peut pas comprendre, parce que vous parlez d'abord de l'accord d'Alger qui n'a pas d'abord été inclusif, il faut qu'on se dise la vérité.
Selon vous, on est tous là,
c'est pas une histoire, et c'est hier là, ça s'est passé, nous étions tous là. Et vous nous parlez encore de conférence d'entente, vous pensez qui va participer à cette conférence d'entente? L'accord est clair et net là-dessus. C'est ceux-là qui sont signataires de l'accord qui peuvent prendre part à cette conférence d'entente.
Ah, ce n'est pas vraiment...
Non, mais c'est ce qui est dans l'accord.
Ce sont les forces vives de la nation qui doivent se parler.
Non, c'est ce qui est dans l'accord. Donc, vous voulez violer l'accord? C'est l'accord qui dit que après, il y aura une conférence d'entente. C'est même dans l'accord. C'est pour cela, moi, je dis...
Mais est-ce qu'il fallait déjà commencer par la conférence d'entente nationale pour accorder les violons et avoir la même lecture de l'accord
non,
avant de continuer?
Non, mais c'est ce que j'ai dit. L'accord, la conférence d'entente sera là tout simplement pour légitimer quelques lectures de l'accord.
Boubacar Paeta, vous êtes d'accord avec?
Bon, moi, je parce que il faut la conférence d'entente nationale. Moi, et c'est juste pour dire que quelle lecture les Maliens donnent, dire que au mot Azawad.
C'est-à-dire non, que... pas uniquement pour le mot Azawad. Oui, on a l'impression que le gouvernement n'a pas la même
lecture. Oui, mais c'est ça.
C'est ça. Le problème, c'est quoi? Non, vous ne savez pas.
Ça n'a rien à voir avec
lisez,
les autres
aspects. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas l'article de l'accord, mais cherchez à lire l'accord. C'est pour cela, c'est ce qui me fait mal au Mali. Les gens ne lisent pas, on n'arrive pas à comprendre les choses, on ne nous explique pas les choses clairement. Conférence d'entente, c'est entre les signataires de l'accord. C'est qui? C'est le gouvernement malien, plateforme et SEMA. Point bas.
Paul Nguessan.
Et déjà, Zoumana Sakho a déclaré que lui ne sera pas à la conférence d'entente.
Est-ce que cette conférence d'entente nationale, justement, aura un sens, hein, si elle n'est pas inclusive?
Justement, c'est, comme vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que l'opposition a toujours demandé qu'il y ait une conférence nationale. À force d'insister, pour finir, pour que cette conférence d'entente nationale est ouvert presque à toutes les forces vues de la nation. Donc, comme le dit Sass, d'abord, on viole déjà même l'accord d'Alger qui, effectivement, stipule que ce sont les signataires oui. qui doivent se retrouver merci. Pour pouvoir planifier, bonifier sur le processus. Mais puisque l'opposition républicaine a dénoncé, a demandé que parce que le pays va mal, il faudra qu'on puisse associer presque toutes les forces vues de la nation pour pouvoir débattre encore des sorties de crise.
Benjamin Sangala de Fraternité Africaine. Paul, je m'excuse de vous louper.
Dans cette histoire de conférence nationale, je crois que nous sommes dans un processus de rachat. Parce que déjà, l'esprit avant était quoi? C'était de se prononcer sur les termes de l'Azawad.
Est-ce que c'est le seul,
justement? Non. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes dans un processus de rachat.
On verra.
Parce que déjà...
Le principal, c'est ça.
Vous allez voir, M. Touré, vous serez là.
On laisse Benjamin s'exprimer.
On pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus simplement se contenter du mot Azawad, mais maintenant, il faut faire en sorte que toutes les parties de la nation puissent vraiment aller vers cette conférence nationale-là. Donc, c'est pourquoi je dis donc, nous sommes dans un processus de rachat. Donc, il fallait quand même inclure les points qui n'ont pas été pris en compte auparavant. Sinon, au départ, c'était purement se prononcer sur les appellations, en tout cas, communautaires.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, la CMA, la plateforme, le gouvernement et même la médiation internationale ont la même lecture de l'accord? Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, s'asseoir, accorder les violons et comprendre les points de vue des uns et des autres?
Je crois,
ça ne veut pas dire qu'il est caduque.
Je crois qu'on patauge un peu aussi dans l'accord. Mais quel qu'en soit, les gens ont peut-être envie d'aller, de finir ce processus, sans trop pour autant prendre en charge certains aspects. Sinon, quelque part, vraiment, il faut quand même qu'ils se révisent, parlant de l'accord.
D'accord. Paul Nguessan, qui n'a pas beaucoup parlé, comment faire en sorte qu'il y ait une inclusivité, justement, autour de l'accord?
Mais je pense que, justement, quand on supprime, si on prend les dernières recommandations du comité de suivi de l'accord qui sont tenues récemment à Bamako, on voit que là, ça a été le partage du gâteau. Parce que c'est le partage du gâteau. Hein. Parce que là, on dit que la plateforme prend la région de Gao en charge. CMA, il prend Tombouctou. CMA prend Tombouctou. Et puis, chose bizarre, on dit on laisse Kidal, Tao Déni au gouvernement malien de nommer qui il veut. Pourtant, c'est Kidal qui est l'épicent de cette crise-là.
Kidal, où on a nommé...
Chose bizarre, c'est que la CMA...
La CMA
même qui est... Je peux dire qu'il a sa base à Kidal, dit non que c'est Tombouctou et ils veulent. Et que le gouvernement maintenant puisse trouver
qui. Parce qu'ils savent que le gouvernement n'aura jamais la même ministre Kidal.
Donc, c'est pour dire que je pense qu'il faudra qu'on revienne sur terre. Il faudra que les autorités, nos autorités s'assument. Il faudra qu'on arrive.
On parle des présidents des assemblées régionales.
Oui, justement, on parle de tout ça là. Mais pour moi, est-ce que c'est en mettant les présidents des assemblées régionales, est-ce que c'est en mettant les autorités intérimaires que la paix va venir dans ces régions? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce que les gens de Gao sont en train de faire pour dire qu'on n'est pas d'accord, c'est parce que quelque part, cette jeunesse maîtrisée pendant l'occupation d'Yadis en 2012, qui ont osé braver des gens armés, se sont sacrifiés, ont pu tenir tête. C'est pas aujourd'hui où il n'y a pas d'âme qui ne vont pas tenir tête aux gens. Donc il faut arriver quand même à comprendre cette jeunesse-là. Il faut arriver à comprendre cette société civile des régions du Nord qui ont gros sur le cœur, comprendre réellement leurs préoccupations pour aller les associer même dans le processus pour qu'ils puissent donner leur part, leur contribution et qu'on trouve vraiment une sortie de crise. Sinon, on n'en finira pas.
Merci, monsieur. Je vous propose encore de prendre la seconde pause et de continuer cette émission.
Une réaction un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Merci de suivre le forum de la presse le 13 février, lundi donc, c'était la journée mondiale de la radio avec le thème « La radio, c'est vous, Sax hein, ». Vous êtes bien connu hein, pour être un homme de radio par excellence. Comment se porte le médium au Mali ?
Très mal, très très mal. Bien vrai qu'il soit un outil très précieux, je le dis, je le répète et je le regrette. Ils ont laissé n'importe qui ouvrir sa radio, ils ont laissé n'importe qui venir dans le métier. Et si le Mali aujourd'hui est premier mondial en nombre, mais en qualité, ça reste à désirer.
Premier mondial, je ne sais pas, mais on est premier africain en nombre. Plus de 400 radios au Mali, mais environ 367 seulement sont membres de l'URTEL, Paul Nguessan.
Oui, journée mondiale de la radio, belle initiative, en tout cas pour ces initiateurs-là qui ont pensé, qui ont fait un coucou vraiment aux hommes des radios, parce que la radio, je pense que c'est une radio de référence par excellence, parce qu'elle est accessible partout et à tout moment et à tout lieu. Et effectivement, il faut reconnaître que les gens de radio, ils font un travail qui est impeccable et remarquable. Car c'est pas facile de voir dans différents pays, avec les différentes langues que nous avons, les gens, à longueur de journée, informent, donnent de l'information, amusent ces populations-là. Il faut tirer chapeau vraiment aux radios. Mais, comme l'a dit tout le Sussat, on prend le cas du Mali, il faudra revoir vraiment
La configuration
de la radio. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de radios, même à Bamako, mais moi je vous m'en parle, si on me demande, moi je connais peut-être 5 ou 10 radios, parce que dans ces radios, je me retrouve. Je me retrouve, c'est-à-dire, je trouve qu'ils ont une grille.
Vous parlez de Bamako ou
je parle du Mali? Parce que si il y a même des intérêts même que je connais même pas, donc je préfère parler de Bamako, je maîtrise mieux. Je pense qu'il y a des radios à Bamako, quand je vais, je peux les citer, parce que au moins je me retrouve avec eux, parce qu'ils ont une grille qui est digne d'appeler une radio. Où tu te sens quand tu écoutes quand même. Mais il y a des radios à longueur de journée, quand tu vas là-dessus, tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est? Comme si tu étais en train de jouer un PlayStation, de la musique, pas d'information, pas de débat objectif, rien. Et n'importe qui, et même il y a des promoteurs de radio, même quand tu te demandes ta radio, c'est quelle fréquence, ils ne connaissent même pas. Mais ils feront sereux. On ne peut pas prendre un outil aussi capital, précieux, donner à n'importe qui d'être promoteur, non. Parce que quand je vois ça se parler, je sens lui, c'est une colère, parce qu'il a fait de sa vie sa radio. Donc il vit de sa radio, il a la passion de sa radio. Donc quand il faut que les gens qui sont dans ce métier là, ils aiment d'abord, ils aient la passion, il faut innover. Il faut pas venir parce que vous voyez, on a de l'argent, on doit créer une radio, non, il faut que ça s'arrête.
Boubacar Paetao, hein, Paul Nguessan parlait tout à l'heure des effets bénéfiques de la radio, mais il y a aussi ces effets néfastes. On a vu la radio Mille Collines du Rwanda, hein, les dégâts que ça a causé. Et au Mali, on a souvent vu les dérives de certains journalistes radio.
Oui, bon, ce qui est déplorable, c'est qu'au Mali, je crois que l'État est toujours rattrapé par les faits. C'est-à-dire qu'on met toujours l'État devant les faits accomplis. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de cadrer, de légiférer d'abord, ensuite, de commencer à autoriser les uns et les autres à ouvrir les radios.
Oui, mais on laisse d'abord. En 91, les gens avaient soif de parole. Est-ce que l'État aurait pu stopper cette mouvance-là
À partir du moment où on accepte de vivre ensemble sur un territoire qu'on appelle État, on doit accepter que cet État, dans son rôle régalien, légifère sur un certain nombre, c'est-à-dire de textes, par exemple pour réguler la radio, parce que c'est un puissant moyen de communication. C'est-à-dire que la radio, ça peut tout construire et la radio, ça peut tout détruire.
C'est ça.
En un instant. Donc, on ne doit pas jouer avec ça. C'est comme aujourd'hui la télécommunication, l'Internet. Mais aujourd'hui, l'État n'a aucun texte. Aujourd'hui, imaginez également la télé. C'est-à-dire qu'on a laissé les gens, parce que les gens ont soif. Bon, c'est-à-dire que leur thème qui est là, c'est passion du service public, mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est-à-dire que elle est championne en censure. Mais les gens ont envie d'en créer. Mais il n'y a pas de texte pour encadrer. C'est malheureux. Maintenant, bon, c'est-à-dire que le cas des journalistes, je crois qu'aujourd'hui, il faut revoir la définition même du journaliste au Mali. Mm-hmm. la définition du journalisme humaniste.
Donc, c'est en fait, important. Benjamin Sangala, ce n'est pas la radio le problème, mais le journaliste, selon vous.
Bon, avant peut-être de répondre à ce que je voudrais peut-être rendre hommage à une radio à Gao, qui, pendant la crise, vraiment est restée telle, la radio Adar Koema, ou même certains des.
Adar Koema, partenaire du studio Tamanina.
C'est ça. Donc, votre question, c'était.
Est-ce que vous pensez justement que.
Le problème n'est pas la radio.
Le problème n'est pas la radio, mais le journaliste.
Le problème n'est pas la radio. Parce que déjà, c'est le journaliste, mais quel type de journaliste? D'abord, quand on parle de journaliste, on parle d'abord de la formation. Qui est-ce qui intervient sur les radios? D'où est-ce qu'ils viennent? Il y a tout ça. Donc, comme le greffier Sachs a dit, si vous laissez tout le monde peut-être parler sur les ondes, alors sans contrôler ce qu'ils veulent dire, et sans un programme préétabli et sans aucune formation, ça donne vraiment à tout ça. Maintenant, comme il faut le dire, peut-être la radio, ça peut construire, ça peut détruire. Nous avons vu des cas, et mais au Mali, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a eu quand même une grande crise, en tout cas venue de la région, s'il y a des dérives des fois.
Alors, Sachs, hein, que faut-il faire pour améliorer le secteur en une minute?
Ce qu'il faut faire, d'abord, il va falloir que ceux-là qui ont eu la chance d'animer cette entreprise prennent conscience.
Les patrons de presse.
Oui, qui est dans toutes
les patrons de radio.
Les patrons de presse, et même pas les patrons de presse.
Les patrons de radio.
Et surtout les acteurs de la radio. Ça peut être les auditeurs, ça peut être ceux-là qui animent ces radios. Qu'on arrête chacun de prendre ses désirs comme des réalités. Quand l'homme de radio parle, qu'il mette en tête que ce qu'il dit est partagé en deux. La moitié à lui qui parle et à moitié à ceux-là qui les écoutent. Voilà. S'il y a cette union entre les auditeurs et les hommes de radio, on fera de cet outil très précieux que moi j'aime très bien parmi tous les médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit la télé. Parce qu'il est l'outil qui est à la portée de tout le monde, disponible, mais
moins coûteux.
Moins coûteux.
Voilà. Merci. Également. Voilà. Merci, monsieur. On va aller vers le dernier thème très rapidement. Deux nouvelles études cliniques, hein, dont une l'a été au Mali, confirment la possible efficacité d'un vaccin expérimental contre le paludisme élaboré à partir de la forme active du parasite responsable de la maladie. Avant de parler de ce thème, je vous invite à écouter un papier que le studio Tamani a fait aujourd'hui.
Les deux études conduites au Mali sur 88 adultes et une autre en Allemagne sur 35 adultes ont donné des résultats très encourageants avec un niveau de protection significatif selon le laboratoire américain Sanaria qui développe ce vaccin baptisé PFSPZ. L'étude réalisée dans une zone rurale du Mali a été publiée ce jeudi dans une revue médicale britannique. Elle a consisté à injecter directement dans le sang des volontaires en bonne santé le Plasmodium falciparum dans une phase précoce de son développement et atténué par irradiation. 6 mois après les 5 injections, 93% du groupe ayant reçu le placebo ont été infectés au moins une fois par le parasite, mais cette proportion est tombée à 66% chez les personnes vaccinées. Selon Stéphane Hoffman, directeur général et fondateur de Sanaria, ce résultat est le niveau le plus élevé de protection jamais vu pour un vaccin contre le paludisme. D'autres études sont en cours dans plusieurs pays afin de déterminer la dose et le mode d'administration les plus efficaces. Selon les responsables de ces études, d'autres recherches sont nécessaires pour déterminer si le vaccin pourrait être efficace dans le cadre d'une stratégie de vaccination de masse contre le paludisme.
Paul Nguessin, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on voit que le paludisme cause plus de 400 000 décès chaque année en Afrique subsaharienne.
Une bonne nouvelle, je ne crois pas trop, parce que tout le monde sait que nous sommes en Afrique, continent chaud par excellence. Le vecteur qui nous détruit le plus, c'est le paludisme. Il faut attendre des siècles pour nous sortir d'abord un vaccin expérimental. On n'est même pas encore sûr de la certification de l'OMS pour nous dire ouais, qu'effectivement, on peut maintenant mettre ça sur le marché, qu'on peut commercer ça en grand nombre. Pour moi, c'est un non-événement. Parce que ce qui nous tue le plus en Afrique, c'est le paludisme. Comment se fait-il que dans le continent africain, nous avons des experts, des chercheurs, des éminents chercheurs, il faut attendre plus de 50 ans pour nous sortir un vaccin expérimental. Même pas un vaccin approuvé et avec le consensus de l'OMS. Pour moi, c'est un événement. Et même quand on dit au Mali, certains Maliens se disent « Ah, au fait, c'est chez nous. » Non, ça, c'est un effet de fanfaronnade pour moi. Il faudra qu'on soit réaliste. Le paludisme nous tue en longueur de journée, ça continue de nous tuer. Il faudra que le chef d'État s'assume au niveau de l'UIA pour dire les chercheurs, trouvez-nous, on va dire à l'OMS de nous donner le feu vert pour qu'on puisse soigner nos enfants, nos populations. Sinon, pour expérimenter, on en a trop vu, on en est fatigué.
Alors, Boubacar Paeta, une expérimentation qui connaît quand même des succès notables, quand on sait aussi que le Mali abrite l'un des plus grands laboratoires de recherche contre le paludisme.
Voilà, donc moi je serais moins alarmant que
Paul Nguessa.
Bon, je dirais, vaut mieux tard que jamais. Souvent dans la marche des nations, bon, ça c'est une évidence, parce que la vie aussi, c'est un peu ce rapport de force, et c'est les rapports un peu de proximité. Aujourd'hui, c'est nous, c'est l'Afrique qui est touchée par cette maladie, mais c'est aux Africains de s'assumer, et généralement dans notre coutume, bon, on attend toujours des autres, donc il va de soi que qu'on attend 50 ans pour avoir un vaccin, mais tout compte fait, vaut mieux tard que jamais. Et vraiment, on va dire alhamdoulilah.
Benjamin Sangala, on est indépendant que depuis une cinquantaine d'années également. Alors, trouver un vaccin contre le paludisme maintenant, c'est plutôt une bonne nouvelle, non?
Je pense oui. C'est une bonne nouvelle parce que déjà, nous avons quand même un grand laboratoire, comme vous l'avez dit ici. On ne peut pas continuer à espérer. Déjà qu'on l'a. Est-ce que, comme Paul l'a dit, est-ce que l'expérimentation, ça va donner à quelque chose? Si ça donne, tant mieux. Dans le cas contraire, quand même, on aura eu quand même un vaccin qui va, en tout cas, sauver les gens du paludisme. Mais par contre, il faut aussi que vraiment les autorités africaines prennent au sérieux le cas du paludisme. Ça tue tellement de enfants. 400 000 morts par année, vous savez, c'est déjà trop. Et que déjà aussi...
En Afrique, ça c'est rien qu'en Afrique subsaharienne.
Rien qu'en Afrique subsaharienne, c'est tout notre espace. Également aussi, et comment ça s'appelle, les moustiques, il faudrait que les pays aussi luttent contre ces moustiques là, ça n'est de trop. Donc si les moustiques causent le paludisme également, il faut lutter contre les moustiques, et également aussi vraiment nous trouver vraiment un vaccin contre vraiment ce mal là.
Justement, ça n'est de trop. Ça, que si on arrive enfin à trouver un vaccin contre le paludisme, c'est un très gros manque à gagner pour nos états.
Tu lui l'as été moins alarmant que Paul Nguessa. Moi, je serais plus agressif que Paul Nguessa. Parce que faut se dire quand même que...
Mais c'est plutôt une bonne nouvelle de trouver un vaccin, enfin, contre le paludisme. Même s'il est en expérimentation.
Non, Touré, arrêtez de nous distraire. Urkia Sanogo vient d'avoir un prix tout de suite. Moi, je lui souhaitais que ce prix soit dans la découverte de ce vaccin. Le Mali, où l'Afrique a tellement d'atouts pour approfondir nos recherches, au lieu de mettre nos milliards dans d'autres choses, et si nous avons problème, on a des problèmes, plus que le palud, je n'en vois pas. Ça tue comme
les médicaments les plus efficaces contre le palud, d'ailleurs, sont nos médicaments traditionnels.
Pour qu'elle n'ait pas approfondi, pour qu'elle n'ait pas encouragé, pour qu'elle n'ait pas financé la recherche. Pourquoi?
Mais la recherche, elle est financée, justement, au niveau du MRTC, du
non,
Mali.
Mais le résultat, il est où? Il faut attendre.
La chercheur en trouve, mais la chercheur qui en trouve, on en cherche.
Voilà. Ce n'est même pas ça.
Mais Paul Nguessa, le professeur Ogubara Dolo, depuis quelques années, produit quand même de bons résultats. Et celui-là en est la preuve.
Pourquoi ça n'a pas été encouragé? C'est pour ça que Paul Nguessa, il dit qu'il va falloir qu'il y ait le courage. Parce qu'on ne peut pas attendre 50 ans et ils n'ont pas de problème de palier. Hein. C'est nous qui mourons de palier.
Benjamin Sangala souhaite dire un mot.
C'est déjà une bonne nouvelle.
Non, il ne doit pas décider à notre place.
On va laisser Benjamin réagir rapidement.
Les résultats des recherches ne sont pas souvent des tic ou tac, mais quand même, ayons quand même le courage d'encourager ceux qui en ont quand même à faire. Docteur Ogubara Dolo, vraiment, aujourd'hui, est une
femme.
Il faut l'encourager, continuer à l'aider également. On ne peut pas quand même nier cette évidence que vraiment, c'est ça.
Mais pourquoi vous voulez que ça vienne tout le temps d'eux?
Bon, que ça vienne d'eux ou pas, qu'on ait quand même un vaccin.
Mais ça, c'est, on ne dit pas que ça vient d'eux. C'est une partie de ce vaccin, justement, vient du Mali.
Ok, félicitations alors.
Les études ont été réalisées au Mali, quand même.
Voilà.
Et c'est parti pour encore pour être testé encore en Allemagne. Voilà, il y a un problème.
C'est ça, il y a un problème.
D'accord. Monsieur, merci beaucoup pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, ceci met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci à Boubacar Paetao de l'Indépendant, Benjamin Sangala de Fraternité Africaine, Amadou Djadje Sako, Saxe de RFM, Paul Nguessa du Prétoire. Merci à vous, chers auditeurs. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Arandjalo. Philippe Dambélé était à la mise en onde. Salim Diouara à la régie vidéo. Je suis Ousmane Djadje Touré. Bon week-end.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo de Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.